Vous écoutez RTL.
RTL.
Tu es ma terre, ma mère et mon hiver.
Les paysans font parler d'eux, ils sont en crise, en tout cas les paysans français. Mettre en perspective cette crise et mettre en perspective l'histoire même des paysans est une chose qui est absolument fondamentale.
La curiosité est un vilain défaut.
La terre meurt, on s'en fout.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Façonné notre territoire depuis plus d'un siècle, mais qui sont les paysans français? Comment vivaient-ils dans les années 30, dans les années 40? Pourquoi les années 50 marquent-elles le virage le plus important? On répond à toutes ces questions tout de suite sur RTL avec notre invité, l'historien Éric Alary. Depuis les années 70, il y a de nombreux historiens, des sociologues qui annoncent la fin des paysans. Ils se sont trompés, heureusement. Pourquoi?
Ils se sont trompés, disons qu'ils annonçaient la fin d'une période, notamment d'une période où la France rurale était assez figé, cette France rurale qui s'était construite pendant des décennies, des siècles, et qui d'un seul coup s'est trouvée confrontée à une situation hyper industrialisée, hyper citadine. Mmh. Ils sont passés en fait d'un monde qui a vécu pendant 2-3 000 ans à un monde qui en moins de 100 ans devient un monde de citadins, un monde industriel, et un monde qui s'est, un monde français qui s'ouvre au monde entier. Et il a fallu évidemment convaincre les paysans de changer de rythme, de changer de vie, et aussi de considérer que faire des bénéfices n'était pas forcément quelque chose de mal dans la vie, parce que le paysan jusqu'aux années 40-50, c'est quelqu'un qui finalement vit pour sa famille. Il vit pour sa famille, il gère...
Il travaille pour nourrir sa famille.
Oui, c'est cela. Ouais. Il travaille pour nourrir sa famille, et dégager les bénéfices, ça ne l'atteint absolument pas. Certains hommes politiques ont essayé de les convaincre, hein, dans l'entre-deux-guerres, de se moderniser, de se mécaniser. Mais avant la Seconde Guerre mondiale, avant même le retard qu'ils ont pris par la Seconde Guerre mondiale, les paysans français sont déjà très en retard par rapport aux paysans allemands ou par rapport aux paysans anglais. Parce que l'homme politique qui voit là une clientèle électorale formidable, hein, les paysans sont encore 50% en 1929, puis après un peu moins de 50%. Les hommes politiques savent bien qu'il va falloir que les paysans se modernisent, mais évidemment, ils n'osent pas le dire trop fort et trop rapidement.
Quand vous dites, Éric Alary, que l'agriculture française, je retiens, hein, 50% de la population dans les années 20,
oui.
Donc il y avait quoi? Il y avait 40 millions de Français à l'époque.
Oui, 40 millions de Français, c'est ça.
Donc il y avait 20 millions d'agriculteurs, aujourd'hui il y en a moins d'un million.
Oui, c'est ça, il y a moins d'un million.
Pour avoir les proportions.
Il y a 400 000 exploitations à peu près, ouais. En France, et voilà.
Quand vous dites que c'était une histoire de famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les générations cohabitaient dans la ferme, c'est ça?
Toutes les générations cohabitaient, c'était deux, rarement trois familles, parce que l'espérance de vie n'est pas aussi celle que nous connaissons aujourd'hui.
Oui.
Mais très souvent, et la photographie le montre très bien. On voit bien toutes les photographies qui sont prises dans la première moitié du XXe siècle montrent souvent la grand-mère avec les enfants. Car quand la mère était au travail, dans la basse-cour ou au marché, quand l'époux, le paysan, lui, était dans les champs avec les commis, eh bien, c'est la grand-mère qui s'occupait des enfants. Alors, souvent, on ne voit pas de grand-père. Le grand-père est mort depuis un moment. Et ces grand-mères sont finalement le lien, le ciment qui permet aux familles, aux jeunes familles de paysans de subsister.
Éric Alary, vous publiez La France paysanne aux éditions Métive, un livre illustré avec de très nombreuses photos. Et c'est vrai qu'on y voit notamment ces enfants qui travaillent. C'était normal aussi à l'époque, des enfants qui travaillent?
Tout à fait naturel de voir des enfants travailler dans les fermes, quand bien même la Troisième République, la Quatrième République a légiféré sur le travail des enfants, quand bien même ces républiques ont eu tant de mal à faire admettre aux parents paysans qu'il fallait aller à l'école obligatoire, eh bien les enfants étaient sans cesse...
Jules Ferry, c'était pas un copain, quoi, c'est ça?
Pas trop. Après Charlemagne, c'était Jules Ferry.
Oui, c'est ça.
Et en fait, ces enfants étaient sans arrêt sollicités pour travailler au champ. Mais la définition de l'enfant a bien changé. Depuis un enfant qui a 14 ans aujourd'hui, un enfant qui a 14 ans à l'époque n'a pas du tout la même corpulence, le même physique. Mais c'était difficile, il fallait aller à l'école, il fallait s'occuper des corvées. Et d'ailleurs, les vacances scolaires étaient formatées de telle façon à ce que les enfants soient présents pour les moissons.
Donc c'est pas un hasard si on a cette période de vacances scolaires l'été, c'était
exactement
vraiment pour que la main-d'œuvre soit disponible.
Exactement.
Et les femmes, le rôle des femmes, Éric Alary, hors guerre et pendant la guerre aussi, dans les fermes.
Oui, le rôle des femmes est fondamental. Souvent on a entendu cet adage que les femmes ont travaillé pour la première fois pendant la Première Guerre mondiale. Non, les femmes de la bourgeoisie ont été obligées de travailler à Paris, dans les grandes villes. Mais les femmes paysannes travaillent depuis extrêmement longtemps. Bien sûr, les tâches sont extrêmement bien distinctes. À la femme, les petits travaux, les calculs, la vente des œufs, et aux hommes, les travaux
plus
de
le
force.
Commerce, alors.
Bien sûr, c'est plus le petit commerce avec la ville ou le chef-lieu de canton le plus proche. Et pendant la Première Guerre mondiale, notamment, un peu moins pendant la Seconde Guerre mondiale, mais tout de même pendant la Première Guerre mondiale, Il y a des centaines de milliers de paysans qui sont mobilisés. Ce sont les femmes qui tiennent la ferme. Et d'ailleurs, dans les lettres des poilus, il y a des consignes qui sont données aux femmes sur la conduite à tenir pour les semailles, pour le labour, pour la fenaison, en plus des remarques qui sont faites aux enfants qui doivent aider leur maman pendant la guerre. Et d'ailleurs, le premier discours qui est fait à la Chambre des députés en 1914, c'est un discours de Poincaré qui est lu par le président du Conseil socialiste Viviani et qui dit, c'est une des premières
premier
phrases
discours
du
de
discours,
guerre, c'est ça, hein.
Discours de guerre, on est en 1914, le 3 août, et qui dit « Femmes françaises, levez-vous ». Donc, quand bien même personne ne sait que la guerre va durer très longtemps, tout le monde pense que la guerre sera finie à l'automne, eh bien, il y a déjà la prise de conscience nationale que la femme, dans les campagnes, est déterminante.
Oui, parce que le timing, si j'ose dire, de cette déclaration de guerre, c'est pas un bon timing, parce qu'on est en pleine, on est en pleine moisson.
On est en pleine moisson, et là, évidemment, il y a une angoisse extrêmement importante du côté des familles de paysans, et les paysans espèrent tout de même être revenus pour préparer les cultures de l'année suivante. À Noël, ils seront toujours pas là.
Cette histoire de la France paysanne, c'est aussi un peu l'histoire de votre famille, Eric ?
Oui, c'est vrai, j'ai des origines paysannes, paysannes étrangères. J'avais une grand-mère qui était slovaque, qui fait partie de ces lots de plusieurs centaines de Slovaques, Tchécoslovaques, à l'époque on disait, et de Polonaises qui sont venues dans les années 30 pour travailler en France, souvent avec une seule ambition, c'était revenir chez eux ou chez elles pour pouvoir donner de l'argent à leur propre famille. On est dans les années 1930 et beaucoup sont restés. Beaucoup sont restés en France. Parfois, elles ont vécu dans des conditions difficiles. Dans certaines fermes, certains paysans profitaient de cette main-d'œuvre à bon marché dans les années 30. Et en fait, on connaît assez mal cette migration rurale internationale en France. Elle est très mal connue et ça concerne vraisemblablement des milliers et des milliers de femmes et d'hommes jeunes qui sont venus de Pologne et de Tchécoslovaquie dans l'entre-deux-guerres, plutôt dans les années 30.
Vous avez des souvenirs de ce milieu paysan dans lequel vous avez grandi ?
Oui.
Ouais.
J'ai le souvenir de certaines fermes soloniotes. Mon père était gendarme, donc au contact vraiment du monde rural. C'est pour ça que j'écris autant sur les Français au quotidien, dans les guerres et maintenant sur les paysans. Je me souviens de ces fermes où l'asperge était reine en quelque sorte, et de ces fermes où les paysans n'investissaient pas dans la cuisine en formica, dans le sol avec, je dirais, du carrelage moderne. Non, j'ai vu des fermes avec des sols en terre battue, avec des journaux qui étaient conservés en pile de 1 mètre à 2 mètres, parce que le journal servait à envelopper les œufs. Et alors tout le monde venait. Dans la Nièvre, je me souviens du village où mon père est né, d'un village où des hommes politiques très connus passaient, allaient dans une ferme, se salissaient les pieds et, avec une très grande simplicité, demandaient une douzaine d'œufs et repartaient avec leur douzaine d'œufs. C'était un lieu de sociabilité aussi, les fermes. Quelle que soit, je dirais, l'allure générale de la ferme, c'était un lieu de sociabilité.
Il y avait toujours un petit canon à servir.
Un canon à servir. Alors, pas les gendarmes. Les gendarmes venaient. Les gendarmes venaient.
Pas, bien sûr.
Pas d'alcool, évidemment. Mais surtout, les gendarmes venaient au renseignement. Il faut savoir que les gendarmes, pendant très longtemps, ont pu travailler de façon efficace dans les campagnes, grâce à ce que leur disaient les paysans qui arpentaient les champs, les forêts, qui voyaient ce qui se passait.
Même le week-end, la curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et dans la curiosité, on partage le quotidien des paysans français du siècle dernier avec notre invité, l'historien Éric Alary. Je rappelle que vous publiez La France paysanne aux éditions Métive. Alors on parlait des rituels qui rythmaient la vie dans nos villages. Tuer le cochon, ça c'était un rituel.
Ah ben la tuerie du cochon est un rituel qui existe encore plus ou moins dans certaines fermes, mais qui est totalement là en voie de disparition. Mais la tuerie du cochon était un peu comme la fête des vendanges, un peu comme la fête des moissons. C'était des très grands rituels. Comme le disait l'adage paysan, dans le cochon, tout se mange. Et effectivement, le cochon était, avant l'apparition des réfrigérateurs dans les fermes, était un moyen de garder, en salant la viande, de garder très longtemps effectivement cette viande. Le cochon était tué aussi pour des grands événements comme le mariage. Il faut savoir que les paysans, les ruraux, paysans et non paysans, mangeaient assez peu de viande. La viande commence à être vraiment consommée dans les campagnes après la Première Guerre mondiale, quand les poilus ont été habitués à manger de la viande et les boucheries ont fait florès, ont poussé un peu comme des champignons dans les campagnes. Mais c'était le cochon qui était mangé prioritairement et pas la viande de bœuf.
Mais on le retrouvait, c'est ce que vous dites dans votre livre, dans pratiquement toutes les fermes. Pourquoi ? Parce qu'il était facile à travailler, là aussi je mets des guillemets.
Il était facile à élever,
et il mangeait sympa.
N'importe quoi, il était sympa. Mais pendant très longtemps, les Français ont eu du mal mal, par exemple, les paysans ont eu du mal à manger les pommes de terre et certains légumes parce que c'était les légumes qui étaient donnés aux cochons. Donc on ne mangeait pas la même nourriture que les cochons.
Pas une très bonne image quand même le cochon alors.
Pas une très bonne image, effectivement.
Les animaux, ils vivaient dans la ferme aussi. Est-ce que ça, c'est une image du 19e siècle ou encore au 20e siècle?
Non, ils vivaient dans la ferme. Il y a encore bien des fermes, par exemple bretonnes, pour ne pas faire de fixation sur la Bretagne, mais tout de même, bretonnes, bourguignonnes, même auvergnates, où les bêtes vivent très près, finalement, des familles. Alors bon, on n'est plus non plus au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, où les bêtes pouvaient tendre la tête quasiment dans la chambre à coucher qui servait de cuisine, qui servait de tout. Et en revanche, c'est vrai que les paysans ont l'habitude de vivre avec les animaux. Ils n'ont pas peur des animaux. Hein, et puis, il y a ce rythme de la traite. Hein, deux fois la traite par jour. Alors c'était compliqué. Alors l'apparition de l'électricité a facilité aussi le travail des paysans. Mais le travail du paysan est quand même extrêmement dur. Il ne peut rien faire. Il est l'esclave du rythme des bêtes, hein, en quelque sorte. Alors bon, ils étaient habitués à vivre aussi avec tous ces animaux de basse-cour. Les chiens également, notamment en montagne, avec les chiens de berger, etc., qui étaient élevés aussi.
Cette électricité qui arrive dans les années 30, c'est quoi? C'est une priorité nationale?
Oui. Ouais. Alors, l'État privilégie l'électricité et non pas l'eau. Et puis, en lien avec une banque, je ne citerai pas, la couleur verte, qui est une banque fondamentale dans le développement et la modernisation de l'agriculture, l'État n'a pas les moyens de financer l'installation d'un réseau électrique national. Et donc, c'est grâce au financement de cette banque que 80% des fermes sont raccordées aux filières électriques, au système électrique, à la fin des années 30. En revanche, l'eau courante n'arrive pas dans les fermes de façon systématique avant les années 1960-1970. 80% des fermes reçoivent l'eau courante seulement à partir des années 70-80.
Alors on le disait en préambule, les années 50 ont marqué vraiment le virage majeur. C'est quoi? C'est la mécanisation tout simplement?
C'est la mécanisation, c'est l'ouverture obligatoire de l'agriculture française au monde, au capitalisme, poussé aussi par la création de la CEE, la Communauté économique européenne, en 1957, poussé par le général de Gaulle, qui d'ailleurs, j'étais étonné en écrivant ce travail sur les paysans, ce général de Gaulle se préoccupait assez peu des paysans, contrairement à ce que je croyais quand j'étais plus jeune, où les paysans votaient massivement pour de Gaulle ou votaient massivement à droite. J'étais étonné de voir que de Gaulle, jusqu'au début des années 1960, s'occupe assez peu des paysans. Ils pensent que c'est la cuisine, c'est la logistique, comme ils suivraient l'armée, quoi, la cuisine qui suit les armées. Et puis c'est Edgar Pisani, le ministre de l'Agriculture, qui lui dit « Mais non, la paysannerie, il faut absolument en tenir compte, c'est encore une force électorale et il faut absolument que l'agriculture française franchisse un pas dans les années 60. » Et c'est ce qui va se passer. Et De Gaulle va réclamer aux paysans plus d'autonomie. Mais ça veut dire aussi que le ménage va être fait dans les campagnes, c'est-à-dire que toutes les petites exploitations, les moyennes exploitations vont disparaître, privilégiant à partir des années 60, de très grandes exploitations céréalières.
Et ça ne se fera pas, évidemment, sans douleur. C'est ce qu'on vous raconte tout de suite dans La Curiosité.
La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
RTL.
Paysan, tu es. Paysan, tu seras. La chaleur, l'été. Et l'hiver, le froid.
La curiosité est un vilain défaut.
Tu es pas les paysans, pensez à vos enfants. Tu es pas l'agriculture, c'est crime contre nature.
Jusqu'à 22h. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Quand on traverse la France en train ou en voiture et qu'on écoute un petit peu de musique, des chansons sur les paysans par exemple, on voit le travail, il y a de Pierre Bachelet à la techno, il y a un peu de tout, en passant par Serge Marais, on voit le travail des générations de paysans, ils ont façonné notre territoire depuis plus d'un siècle. On vous raconte leur histoire sur RTL avec notre invité Éric Alary qui publie La France paysanne, c'est aux éditions Métive. Éric Alary, ces paysages ruraux qu'on peut découvrir aujourd'hui, qu'on traverse, parmi lesquels on vit, depuis quand ils ont pris cette forme? C'est les années 70, 80? C'est finalement assez récent?
Oui, c'est assez récent. C'est à partir tout de même de la seconde moitié des années 50 que les paysans, avec ce qu'on appelle le remembrement des terres, le rassemblement des terres pour avoir des surfaces beaucoup plus grandes, vont commencer à couper les haies, arracher des forêts. Donc l'impression d'une nouvelle déforestation après celle du Moyen-Âge, mais une déforestation et un arrachage des haies fou, absolument fou. Les paysans ont été pris dans une nouvelle culture qui est la culture du rendement. la culture du rendement, du productivisme. Mmh. Alors qu'avant la Seconde Guerre mondiale, faire des bénéfices, ça ne les intéresse pas. Après la Seconde Guerre mondiale, les jeunes paysans qui prennent la relève de leur père, non sans difficulté, eux sont plutôt éduqués à cette philosophie du rendement, de la rentabilité, et ils rentrent dans des circuits où des vendeurs de semences viennent les voir, des vendeurs d'engrais, et personne ne se pose de questions qui sont des questions anachroniques pour l'époque, de l'environnement, questions du paysage. Il s'agit maintenant de faire de l'agriculture française la meilleure, la plus belle, la première agriculture du monde. Il faut savoir que l'agriculture française est depuis les années 60 la deuxième agriculture la plus exportatrice du monde, que les Français produisent plus de blé qu'ils n'en consomment depuis 1951. On est entré là dans une espèce de tournis, en quelque sorte, au rendement.
On est allé trop loin, c'est ce que vous nous dites.
Au bout du compte, aujourd'hui, on ne pouvait pas le savoir à l'époque, forcément. Ils ne pouvaient pas le savoir à l'époque. On est allé beaucoup trop loin. Il y a une prise de conscience des hommes politiques dans les années 80. Brice Lalonde est le premier à dire, mais évidemment, cela a terni l'image des paysans, que paysan égale pollueur. Alors, c'était très maladroit pour des paysans qui, dans l'histoire, se sentent souvent mal aimés, sont souvent au cœur de légendes noires. Vous lisez Balzac au début du 19e siècle, c'est lui qui forge cette légende noire du paysan, de ce paysan bouseux, ce paysan qui ne pense qu'à lui, proche de la bête, qui n'est pas récupérable. Zola pense que, effectivement, le paysan se rapproche de la bête, mais qu'il est récupérable. Et donc, les hommes politiques, entre guillemets, vous me permettrez l'expression, vont ramer pour essayer de redonner confiance aux paysans pendant tout le 20e siècle. Brice Lalonde pose un vrai problème, un vrai diagnostic quand il dit que, en fait, les terres sont polluées. C'est la prise de conscience par l'ensemble des Français que les nappes phréatiques sont totalement infectées.
Oui. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, quand on voit il y a des crises récurrentes dans le monde paysan actuel, il y a un virage vers le bio qui est souvent présenté comme la solution. Pourquoi ? Parce qu'ils sont mieux payés quand ils font du bio, aujourd'hui, les agriculteurs ?
La solution du bio, c'est une solution, qui correspond à une prise de conscience. Moi, je vois souvent des paysans autour de chez moi qui me disent, de toute façon, l'agriculture telle que nous l'avons conçue, elle est morte. Elle est morte, et j'ai entendu des paysans qui m'ont dit aussi un matin en sortant, je me suis aperçu que les haies étaient, que le paysage que j'avais connu dans mon enfance avait disparu. Mmh. Qui ont eu une sorte de déprime, de dépression, qu'on a eu assez de cette mauvaise image, qui ont des enfants qui ne sont pas paysans. Et en fait, qui se sont dit, si nous prenons conscience et que nous prenons en main l'avenir alimentaire de la France avec les Français, nous pourrons nous en sortir en réduisant les intermédiaires entre le consommateur et le producteur. Et l'année dernière, en 2015, puisqu'on n'a pas le chiffre de 2016, il y a une augmentation du nombre d'exploitations bio de plus de 139%. Les pouvoirs publics ne suivent même plus. Il y a un plan de 5 ans, un plan quinquennal de financement d'aide à ceux des paysans qui se reconvertissent dans le bio. Ce plan, au bout de la première année, est déjà vidé de toute sa substance budgétaire.
Donc, le budget qui était prévu, il est déjà mangé.
Il faut absolument. Ouais. Et je crois que là, les consommateurs, les paysans créent des associations, il y en a quelques-unes en France, pour défendre le maintien d'une agriculture paysanne en réduisant évidemment les intermédiaires entre le paysan et le consommateur. Car on est ce qu'on mange. C'est un peu un adage aujourd'hui nouveau. On est ce qu'on mange. Et je crois qu'aussi, il y a beaucoup de paysans, c'est assez tabou, qui meurent jeunes, qui meurent à moins de 70 ans aujourd'hui, qui ont été infectés par des maladies dites orphelines. Et ces chiffres, moi, je n'arrive pas à les connaître. Combien de paysans, de fils de paysans qui ont mon âge, moins de 50 ans, sont stériles ou malades ? Il y en a beaucoup.
À cause des produits chimiques qu'ils ont utilisés.
À cause des produits chimiques. Et donc, les paysans ont aussi réagi par rapport à cela.
Si un paysan, on a balayé grâce à vous rapidement, mais il y a votre livre pour entrer dans les détails, un siècle de paysannerie française, si un paysan du début du XXe siècle débarquait aujourd'hui dans une ferme de 2016, qu'est-ce qui le frapperait le plus ? Peut-être l'absence de la famille, justement, l'isolement de l'agriculteur ?
Ce qui frapperait, effectivement, c'est de voir qu'il n'y a plus que des hommes seuls dans les fermes. Rares sont aujourd'hui les paysans mariés, mariés ou avec des femmes. Ils verraient des fermes vidées, ils verraient des fermes avec des cours en pavé autobloquant, ils ne verraient plus les têtes de fumier au milieu de la cour. Ils n'auraient même plus de bottes, alors ils ne porteraient pas des bottes, ils auraient des sabots, pardon. Oui. Ils porteraient peut-être des mocassins, ils verraient des paysans, pour certains, des paysans high-tech, avec des costumes, qui conduisent des tracteurs, et qui à partir de leurs tracteurs font actionner 3 ou 4 tracteurs sans même aucun paysan, qui actionnerait des drones. Enfin, ils ne s'y retrouveraient pas, ils feraient une syncope.
Là, ce que vous nous décrivez, c'est l'agriculteur d'aujourd'hui.
Oui.
qui utilisait la grande drone, sériculture,
oui, oui, oui,
bien sûr. Eh bien, écoutez, on va offrir ce voyage dans le temps. Merci beaucoup. En tout cas, ce voyage dans le temps, il est dans votre livre, La France paysanne.
Merci à vous.
Un siècle d'histoire en images, Éric Allary, c'est publié aux éditions Métive. Merci beaucoup.
À bientôt, au micro de la curiosité.
À bientôt.
C'est déjà fini, mais on revient demain. Heureusement, on sera là à 14h. On va, tiens, par exemple, rêver avec Walt Disney. Et puis, on va aussi apprendre à distinguer le propre du sale avec notre nez, N-E-Z.
Et dans un instant, vous avez le plaisir de retrouver Laurent Boyer pour le Grand Studio du Rire avec Bruno Salomon.
En ce moment, là, je sors avec une de ses copines, une américaine. Elle s'appelle Drag Queen. Au lit, elles sont bizarres, les Amerlocs. Je veux dire, maintenant, je comprends pourquoi les cow-boys marchent comme ça, tu vois.
Bel après-midi sur RTL.